Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jeangrand.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Olivier Giraud, est encore là ce soir. Salut Olive. Essaye dans le micro.
Pourquoi il était pas en face?
Ouais, c'est bizarre.
Salut Olive.
Qui te fuit. Oussem est là aussi.
Bonsoir tout le monde.
Et on est à peu près, Oussem, à la mi-temps de ce dimanche exceptionnel sur RMC.
Un 24 octobre à graver dans le marbre, Olive. Jour historique pour le sport français. Thibaut a enfin terminé une grille de mots croisés. Et ça, je peux te dire que c'est donné à personne d'autre qu'à lui.
N'importe quoi.
Sinon, c'est vrai que Fabio Quartararo est devenu le premier français à être sacré champion du monde de MotoGP, le français de 22 ans, sur le toit du monde. Après un Grand Prix complètement fou en Émilie-Romagne. Retour sur cette performance avec Jean-Luc Groix, la voix des sports mécaniques sur RMC. Le football poursuit sa folle journée sur RMC, donc la radio du foot. C'est nous le Graal ce soir, 20h45. Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la 11e journée. L'ambiance, les dernières infos avant le coup d'envoi. Vous saurez tout de cette opposition de style entre deux entraîneurs argentins qui veulent marquer l'histoire de leur club.
RMC Sport Show.
Et on est en direct dans ce RMC Sport Show. Et quel direct ! C'est de la Première Ligue.
Comme tous les dimanches.
La 9e journée. C'était l'un des gros événements de cette journée de sport, hein, qui en compte énormément depuis le début d'après-midi. Et il y a une des deux équipes qui va passer un mauvais dimanche soir.
C'est pour Johan Bredov qui commande ce fameux match entre Manchester et Liverpool. Et pour l'instant, Ole Gunnar Solskjaer a encore un travail.
Oui, encore. Pour l'instant, je pense que c'est, là, il lui reste 13 minutes à la tête de Manchester United. 5-0 pour les Reds à Old Trafford. Ford, c'est rarement arrivé évidemment, une claque comme ça reçue par Manchester United face au rival historique de Liverpool. Les buteurs, je vous les donne: Keita dès la 5e minute sur une passe de Mohamed Salah, Diogo Jota à la 14e et ensuite le triplé pour l'attaquant égyptien à la 38e dans le temps additionnel de la première période. Et à la 50e minute, Pogba a pris un carton rouge, lui qui n'était pas titulaire, hein, qui est entré en jeu après la pause. Il a joué quelques minutes seulement, carton rouge sur une semelle décollée beaucoup trop haute sur le tibia de Keita, qui est sorti donc blessé. Et ça fait 5-0 pour Liverpool à la 78e minute de jeu.
Merci Johan, tu nous dis s'il se passe quoi que ce soit dans les tribunes ou sur la pelouse.
Voilà, si Manchester United revient, n'hésite pas. 19h08, nous sommes donc le dimanche 24 octobre 2021 et pour la première fois de l'histoire, un Français est champion du monde dans la catégorie reine, la MotoGP.
Le meilleur départ pour Jack Miller, le coéquipier de Bagnaia, qui sont en bout de ligne droite. Et c'est finalement Bagnaia qui va donc virer en tête au premier virage.
Fabio, il a déjà gagné 2 places, il est 15e de ce Grand Prix.
Il vient de déposer Luca Marini. C'est une chute pour Pecco Bagnaia qui chute à l'instant. Et Marc Marquez qui prend la tête, et Fabio Quartararo qui devient champion du monde. Immense Fabio Quartararo qui est désormais 4e de cette course. On voit la mine complètement désabusée de Pecco Bagnaia qui menait ce Grand Prix à 6 tours de l'arrivée, qui a donc perdu l'avant et qui a donc chuté, et bien en portant ses derniers espoirs et bien de lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison. C'est un immense jour pour la moto française, et nous ne sommes pas au Festival de Cannes mais bien sur le tracé d'Emilie-Romagne, et tapis rouge pour Fabio Quartararo.
La une du RMC Sport Show.
C'était en direct sur RMC, bien sûr, le Grand Prix MotoGP de Misano en Émilie-Romagne, avec le commentaire de la Dream Team Sport Mécanique d'RMC, Jean-Luc Roy et Paul Lafitte. Dream Team en nombre aujourd'hui, ah oui. Olivier Giraud est toujours là. Salut messieurs.
Salut les gars, salut Olivier. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, salut messieurs. Pour tout vous dire, salut. Dans le RMC Sport Show, on essaye d'avoir en direct Fabio Quartararo, mais qui est l'homme le plus occupé du moment.
Bah, le président l'a appelé aussi.
Voilà, il y a beaucoup de monde. Donc,
nous sommes très transparents, voilà, on est en train de l'appeler en ce moment.
À tout moment, messieurs, il faudra fermer sa bouche et écouter Fabio Quartararo. On essaye avec Geoffrey en régie d'appeler ça. Mais Jean-Luc, toi qui commentes la F1, la moto depuis une quarantaine d'années environ, hein, si on t'avait dit qu'un jour un Français régnerait sur la catégorie reine en moto, ça représente quoi ce titre aujourd'hui, Jean-Luc ?
Ah bah écoute, c'est absolument immense, c'est absolument gigantesque. On l'attendait, on le souhaitait. Dans le passé, je rappelais pendant le direct avec Paul tout à l'heure, il y a eu des titres de champion du monde, mais pas dans la catégorie reine, on va dire. Alors à l'époque, c'était les 500 centimètres cubes. Depuis 2003, on l'appelle MotoGP. Les machines sont maintenant des 1000 centimètres cubes. Mais il y a eu les titres de Johann Zarco, c'est pas si vieux, en Moto2 en 2015-2016, Mike Di Meglio en 125 en 2008, Arnaud Vincent, Olivier Jacques, Christian Jean-Louis Tournade, Patrick Ponce, le regretté Patrick Ponce en 750, et puis Alain Michel, qu'on n'oublie pas en S4. Il y en a eu des titres, mais jamais dans la catégorie reine. Donc là, évidemment, c'est un exploit absolument sensationnel, surtout à 22 ans, de la part de Fabio, qui a intégré l'équipe d'usine Yamaha au début de cette saison, après avoir commencé à briller la saison dernière, effectivement, dans une équipe privée. Il a pris la succession de Valentino Rossi, la légende, qui justement est dans sa tournée d'adieu, et là, disait adieu à son public italien. C'était le dernier Grand Prix de sa carrière qu'il disputait, lui qui a 42 ans. Ça pourrait être le père, hein. Valentino pourrait être le père de Fabio, mais son papa, son vrai papa, il s'appelle Étienne. Il a été champion de France en 125 centimètres cubes et il a tout sacrifié pour que son fils arrive là. C'est fabuleux.
Le papa Étienne qu'on est aussi en train d'appeler. On est très ouvert avec tout le monde, on dit la vérité. On est aussi en train de l'appeler. S'il est dispo, il va décrocher. Paul, ne bouge pas, on va détailler avec toi le scénario fou et voulu aussi par la rédaction d'RMC toute la journée. Un petit mot pour toi, Olivier. Tu as regardé ce fameux Grand Prix et on imagine que tu es satisfait de voir un Français réussir cet exploit.
Bah, j'ai regardé toute la saison, et si on suit toute la saison, elle est juste incroyable parce que à mi-saison, ça aurait pu être un autre Français qui aurait pu être champion du monde, qui avait ces velléités là. Et finalement, dans la continuité, surtout, c'est là où il est fort. Il est fort parce qu'il est régulier. Il faut vraiment suivre cette saison qui a été extraordinaire. Et on a senti à un moment qu'il allait partir tout seul, mais on n'attendait pas Bagnaia qui est arrivé et qui a gagné plusieurs titres, plusieurs grands prix de suite.
Course, oui.
Et finalement, ça s'est joué. C'est l'Italien qui a fait l'erreur.
Hey Paul, le scénario fou dont parlait Olivier, il fallait un problème mécanique ou une chute pour le pilote italien. Et finalement, c'est la chute qui est arrivée.
Ah oui, c'est la chute du pilote Ducati officiel qui menait ce Grand Prix depuis le départ devant Marc Marquez et Jean-Luc l'a rappelé lors de la course, évidemment, le champion du monde espagnol qui a mis bien de la pression sur Bagnaia qui a donc perdu l'avant de sa moto à 5 tours de l'arrivée alors qu'il se dirigeait vers une 3e victoire cette saison et qu'il aurait pu repousser donc l'échéance et le titre de Fabio Quartararo, pourquoi pas au Portugal ou alors à Valence lors de la dernière course. Mais c'est vrai que Fabio a été immense aujourd'hui car petit rappel, il s'est lancé en 15e position sur la grille de départ. C'était la première fois qu'il passait par la Q1, la première épreuve des qualifications. Il ne s'était pas qualifié pour la Q2 et donc au départ il était 17e après les premiers tours de course et il est remonté progressivement pour arriver jusqu'à cette 5e place et là il limitait les dégâts. Évidemment, il perdait des points sur Bagnaia au classement du championnat du monde, mais il limitait la casse. Et évidemment, à 5 tours de l'arrivée, lorsque l'Italien chez lui à Misano, il avait déjà remporté la première course sur le tracé de Misano il y a quelques semaines, a perdu l'avant. Là, ça a été la délivrance pour Fabio Quartararo, mais qui aura vraiment géré cette saison, comme Olivier le rappelait, de main de maître. On le rappellera, 5 victoires au total, 10 podiums. C'est le seul pilote de la catégorie reine à ne pas être tombé cette saison en course. Et vous dire si à 22 ans, ce jeune bonhomme, ce grand bonhomme, cet immense bonhomme avait vraiment la science de la course. Et tous les plus grands champions l'ont précisé, de Mick Doohan à Giacomo Agostini, en parlant de Valentino Rossi ou de Marc Marquez. C'est aujourd'hui le meilleur pilote du monde.
Mais oui, ce que n'a pas réussi à faire son rival, Bagnaia, qui a chuté donc à 4-5 tours de l'arrivée pour offrir ce titre à Fabio Quartararo. Jean-Luc, demain, les Français qui ne suivent pas forcément la moto au quotidien vont, pour certains, découvrir Quartararo. Il sera en une de certains quotidiens, une peut-être de futurs magazines. C'est un champion du monde. Raconte-nous, c'est qui Fabio Quartararo ? Qui est ce bonhomme qui est champion du monde, qui est français champion du monde de MotoGP ?
Écoute, c'est fantastique pour le monde de la moto et au-delà de ça, des sports mécaniques, tu sais, qui sont tellement décriés aujourd'hui. Je vais pas me lancer dans un discours politique, mais bon, ça n'est pas politiquement correct, la moto, parce qu'évidemment, ce sont des moteurs, et oui, ce sont des moteurs. On tourne en rond, bien sûr, et puis on prend des risques, on risque sa vie à chaque tour. Donc, voir un jeune homme de 22 ans, aussi enthousiaste, qui a débuté à 4 ans la compétition, donc sous l'égide de son papa, qui a pu s'expatrier grâce à ses parents qui ont vraiment tout sacrifié. Il est parti en Espagne. Vous vous rendez compte, il avait à peine 8 ans en 2007. Il est né en 99. Il est parti en Espagne. Donc ça a été un véritable déchirement. Et il en a bavé, pour ne pas dire d'autres mots. Il a pas connu le succès tout de suite en arrivant. Même s'il a remporté 6 titres en Espagne, des titres dans les catégories, les petites catégories, bien sûr. Quand il a débarqué en championnat du monde moto, on s'attendait à ce qu'il explose littéralement, et moi le premier. Mais ça n'a pas été le cas pour diverses raisons. Il le rappelait en conférence de presse tout à l'heure. Il a dû attendre et il a eu un choc au Grand Prix d'Argentine. Il était au fond du trou. Il était qualifié 28e, c'est-à-dire dernier sur la grille de départ. Il n'y avait plus que la voiture médicale derrière lui. Et là, il a eu le déclic. Il a dit, il faut que je change tout. Que je change mon pilotage. Que je change mon approche. Que je travaille tout. Et de ce moment-là, eh bien, c'est le nouveau Fabio Quartararo qui est apparu. Ses résultats et une victoire, une seule, j'allais dire, en Moto2 l'ont permis de monter, d'accéder au MotoGP, et là il a explosé. Alors ça me rappelle un petit peu le parallèle avec un pilote que j'aime beaucoup en Formule 1, que je connais très bien, il s'appelle Jacques Villeneuve. Jacques, tant qu'il n'a pas été dans des voitures rapides, puissantes et on va dire dangereuses, eh bien il n'a pas pu donner son meilleur. C'est un peu le cas de Fabio Quartararo.
Jean-Luc, tu le dis très souvent, toi, dans ces sports mécaniques, la part d'importance des constructeurs et des machines. Paul, est-ce que la machine que conduit Fabio Quartararo aujourd'hui est la meilleure du circuit?
C'est peut-être la meilleure, en tout cas sur des circuits sinueux, car on va rappeler évidemment que la Ducati est la machine la plus puissante, hein, que ce soit les Ducati officielles de Bagnaia ou de Jack Miller, ou encore les Ducati de Jorge Martin, le coéquipier de Joan Zarco, ou même de Joan Zarco, qui peuvent eh bien mettre entre 7, 8, 10, 12, 15 km/h eh bien de différence avec les Yamaha ou avec les Honda, quoique les Honda et notamment celle de Marc Marquez est assez puissante. Mais c'est vrai que au guidon de cette Yamaha, aussi bien sur des circuits sinueux que sur des circuits qui sont plus propices à la puissance des Ducati, eh bien le pilotage de Fabio Quartararo a fait la différence, et il a souvent, on le disait, limité les dégâts lorsqu'il ne pouvait pas s'imposer face à la puissance des Ducati. Et lorsque c'était un petit peu sinueux, on pense notamment au circuit d'Assen ou encore à Silverstone, eh bien il a pris véritablement la mesure de ses adversaires.
Et oui, et puis on rappelle que sur sa Yamaha, il était un peu la seule Yamaha quand même présente. Il a eu un équipier quand même qui était Maverick Vinales, qui a changé en cours de saison, et il lui a mis une raclée sur la première partie de saison.
Thibaut, hein, qui avait quand même pourtant gagné. Ouais, qui avait quand même pourtant gagné le premier Grand Prix de la saison. On s'attendait à un mano à mano, hein, Jean-Luc, entre ces deux pilotes. Absolument. Finalement, duo de ses 22 ans, Fabio Quartararo a véritablement damé le pion de son ancien coéquipier.
Olivier Giraud.
Ouais, il s'est fait sortir pour, il avait pratiquement saboté sa moto même, hein.
Oui, mais...
mis de côté par Yamaha.
Il a donné quelques coups de gaz un peu trop rageurs.
Exactement.
Ça ça.
Donc, en fait, en plus, Quartararo n'avait pas de coéquipier pour l'aider, pour cette bagarre. C'est vraiment tout seul à la technique, et aujourd'hui on parle de cette course où il est parti au premier tour, il était 17e. C'est cette manière de piloter aussi que je trouve extraordinaire. C'est vraiment, il a doublé énormément de pilotes, mais c'est chirurgical. On a l'impression que lui ne prend pas de risque, que tout est calculé, même dans les moments où il faut remonter et doubler.
Il est 19h18, vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, avec notre Dream Team Sport Mécanique, Jean-Luc Roy et Paul Lafitte. On continue de revenir sur ce sacre d'un Français champion du monde de MotoGP, celui de Fabio Quartararo, et dans un instant on s'intéressera à l'avenir. Est-il parti pour durer, Quartararo? On en parle dans un instant, et puis reportage également de notre envoyé spécial, parce que c'était un jour particulier pour nous Français évidemment, mais pour l'histoire de cette MotoGP, puisque Valentino Rossi, la légende, a disputé,
a dit au revoir,
son dernier Grand Prix à la maison. On est sur place avec Valentin Jamin, et c'est passé des choses assez exceptionnelles pas très loin du circuit. À tout de suite dans le RMC Sport Show.
RMC Sport Show,
Oussem Moussaïef, Thibaut Jeangrande.
Ok, on n'oublie pas madame. Olivier Giraud est là également jusqu'à 20h. Vous écoutez le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soirée. C'est un bonheur ce soir de faire cette émission consacrée en large partie au sacre de Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP. On est avec Jean-Luc Roy et Paul Lafitte, la Dream Team Sport Mécanique. Dans une dizaine de minutes, le foot, Oussem.
Et oui, puisque ce soir, la grande affiche de clôture de cette journée de Ligue 1, de la 11e journée entre Marseille et le Paris Saint-Germain, demain on ira du côté de Marseille d'ailleurs pour prendre le pouls de cette soirée, l'ambiance, les dernières infos compo, vous saurez tout de ce match.
Il reste deux grands prix dans cette saison, messieurs dames. Fabio Quartararo est déjà champion du monde, il ne peut plus être rejoint. Qu'en est-il de l'avenir? Est-ce que c'est un règne qui est parti pour durer, Paul et Jean-Luc?
Certainement, car au vu de sa saison, il est parti pour dominer, mais je pense que Jean-Luc va me confirmer ça. Le retour sur le devant de la scène de Marc Marquez, hein, qui avait été blessé, lui, 6 fois titré en MotoGP, qui a d'ailleurs gagné derrière Fabio Quartararo. C'est le pilote qui a le plus gagné cette saison, hein, 3 Grands Prix, et qui est en train de remontrer le bout de son nez. Et je pense que dans les saisons à venir, Marc Marquez, Jean-Luc, sera peut-être le plus sérieux rival de Fabio pour l'obtention d'un nouveau titre de champion du monde.
Absolument, Paul. C'est exactement d'ailleurs ce que Fabio a confié tout à l'heure lors de ses déclarations, sa très longue conférence de presse, hein, plus de 45 minutes. Et là aussi, c'est un bonheur de le voir manier l'anglais, évidemment, qui est la langue entre guillemets officielle, mais aussi parfois l'italien, le français, évidemment, et même l'espagnol. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Et il a dit que oui, le retour de Marc Marquez l'impressionnait beaucoup. C'est un pilote avec qui il entretient personnellement d'excellents rapports. Et on l'a vu d'ailleurs, puisque Marc s'est arrêté pour chaleureusement féliciter Fabio pour ce titre de champion du monde. Il a bien compris, Marc, que même si cette victoire pour lui est presque un vrai retour aux affaires, parce qu'il a été très longuement blessé, vous le savez, à l'épaule droite, cette épaule qu'il a d'ailleurs désignée au moment où il franchissait la ligne, il était debout et avec sa main gauche, il montrait l'épaule droite en disant « ça y est, maintenant ça a l'air de tenir ». Donc oui, c'est évidemment, ce sera le rival principal. Il a été handicapé une bonne moitié de la saison par cette blessure et par une onde qui n'était pas développé comme il le voulait. Et c'est évident qu'avec Joan Mir également, hein, qui est troisième quand même du championnat du monde, qui a chuté aujourd'hui, c'est pour dire à quel point c'était piégeux. Il y a 6-7 pilotes même qui se sont retrouvés au tapis pendant ce Grand Prix. C'était vraiment très très délicat et Fabio a géré ça. Et pour répondre à la question, oui, il a loué également sa constance, sans prétention, mais avec lucidité et sa sérénité quelque part cette saison. Et il a dit, c'est comme ça que je suis devenu champion du monde. C'est lui qui a marqué des points à tous les Grands Prix jusque-là. Il est le seul.
Olivier, je te vois sourire là sur cette comparaison, ce duel avec Marc Marquez.
Ben, Marc Marquez, à l'interview, tout de suite après sa victoire, il a félicité bien sûr Fabio, mais il lui a dit qu'il l'attendait l'année prochaine déjà. Oui, que l'année prochaine, il serait là pour l'empêcher de ne pas être celui qui va gagner plusieurs championnats du monde de suite.
Messieurs, on tente de prendre un tout petit peu de recul sur la performance, même si elle est d'aujourd'hui, et on essaie de se projeter en France. Est-ce que la moto va prendre un peu plus de place pour nous, analystes de sport, et surtout pour le grand public, à votre avis, Paul et Jean-Luc?
On le disait dans la présentation dans les grandes gueules du sport hier matin avec Jean-Christophe Drouet, la moto reste un sport marginal, c'est un sport, Jean-Luc le rappelait dans la retransmission, qui est évidemment très dangereux, mais c'est un sport qui est également très onéreux. Il y a seulement 100 000 licenciés en France aujourd'hui, et lorsque l'on veut arriver au plus haut niveau, c'est souvent très très compliqué. Alors on citait pêle-mêle les champions du monde, hein, que sont devenus Mike Di Meglio, Arnaud Vincent, Olivier Jacques ou encore Christian Sarron dans les années 80, mais c'est vrai que pour arriver au plus haut niveau, toujours très difficile. On parlait des sacrifices qu'ont fait les parents de Fabio Quartararo pour voir leur pilote gagner un titre aujourd'hui, en ce dimanche 24 octobre. Mais c'est vrai que la moto, dans le cœur des Français, c'est sûr, ça va changer avec ce titre, mais c'est encore loin de ce que l'on peut voir dans les sports mécaniques, notamment en Formule 1 ou encore en WRC, en rallye. La moto encore, je pense, Jean-Luc, du chemin à parcourir.
Oui, elle a du chemin à parcourir. Ben, effectivement, c'est la moto, ça a eu, on s'en souvient plus forcément aujourd'hui, mais une mauvaise image, les fameux blousons noirs, enfin les bandes organisées. On avait une mauvaise image de la moto. Et puis les courses moto, c'est vrai qu'à une époque, et heureusement, je touche du bois en disant ça, c'est pratiquement révolu, même s'il y a malheureusement encore quelques chutes mortelles. Il y a moins de dangers qu'il y en a eu grâce aux protections, grâce aux circuits, grâce à l'équipement des pilotes. Donc l'image doit changer. D'ailleurs, tous les pilotes de Formule 1, pratiquement sans exception, disent qu'ils ne ratent pas un Grand Prix moto, tellement eux-mêmes trouvent ça absolument passionnant. Alors qu'il arrive à certains, c'était le cas de Raikkonen, qui a été écarté justement à cause du Covid de 2 Grands Prix, n'a pas regardé les Grands Prix de Formule 1, c'est vous dire. Donc les pilotes de Formule 1 sont plus passionnés de moto tôt qu'ils ne le sont par leur propre sport.
Olivier Giraud, tu crois à l'essor de ce sport? On sait qu'en Italie, en Espagne, on va voir le reportage dans un instant, on entendra le reportage de Valentin Jamin, vous allez voir que c'est exceptionnel. Est-ce qu'en France, un jour, la moto peut faire la une?
Ce qui me gêne, c'est que vous disiez un jour, la moto a déjà changé.
Elle a commencé.
Il y a une vraie nouvelle génération de motards. Évidemment, pour la compétition, ça coûte très cher, très compliqué, mais contrairement à la Formule 1, où tu peux pas t'imaginer conduire une Formule 1 ou un semblant de Formule 1, les motos GP ressemblent étrangement aux motos que certains jeunes s'achètent aujourd'hui dans la rue, tout simplement, et qu'il y a une vraie nouvelle génération de motards qui est arrivée, et Quartararo ressemble à ça.
Il y a un vrai public. En tout cas, Fabio Quartararo est champion du monde, et bravo à lui, ça fait bien plaisir. 19h28, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h. On remercie Jean-Luc Roy et Paul Lafitte.
Merci,
on a vécu une belle saison et une belle journée aujourd'hui.
Les gars.
Et on se retrouve très vite, Jean-Luc, dans un quart d'heure d'ailleurs, pour parler Formule 1, puisque les sports mécaniques continuent ce soir avec le départ à 21h. Dans un instant, notre reportage à Misano.
Mais avant ça, on entérine le résultat avec Johan Bredov entre Manchester et Liverpool. Et finalement, ça s'est aussi bien fini qu'on l'imaginait pour Manchester, Johan.
Oui, évidemment, ils sont revenus au score 5-5. Non, 5-0 pour Liverpool. 4-0 à la mi-temps, les buteurs Keita, Diogo Jota et un doublé de Salah. Et juste après la pause, Mo Salah qui va de son triplé. 5-0, donc 10 buts et 5 passes décisives pour l'Égyptien depuis le début de saison. C'est magnifique pour Mohamed Salah. Et Liverpool au classement est deuxième maintenant de Premier League, un point derrière Chelsea, leader.
Et quand même, grosse performance de United qui n'a pas pris de but sur les 20 dernières minutes.
Et ça, c'est fort. Merci Thibaut.
Merci Johan, bonne soirée à toi. La moto, on disait, double événement sur ce Grand Prix MotoGP de Misano en Italie. Le titre de Quartararo pour nous Français, mais c'était aussi le dernier Grand Prix à domicile pour une légende de ce sport.
RMC Sport.
Reportage.
Valentino Rossi va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Il reste deux Grands Prix au Portugal et en Espagne, mais c'était donc le dernier à la maison pour la star italienne. On retrouve en direct d'Emilie Romagne, notre envoyé spécial, Valentin Jamin. Salut Valentin. Alors, Valentino Rossi a terminé à une anonyme dixième place, mais il a été fêté à la hauteur de son immense carrière. Et on le rappelle, c'est 7 titres de champion du monde dans cette catégorie, Valentin.
Valentin, est-ce que tu es là, Valentin?
Ah, il est parti, voilà. Valentin, les aléas du direct.
Valentin, il est aussi présent dans l'émission que Fabio Quartararo, tu vois. Valentin, est-ce que tu es là? Bon, il reviendra dans quelques instants. On marque une petite pause.
Voilà, le programme, je vous
le
rappelle, à 19h30.
Le temps de le reconnecter.
Dans un instant, on va tenter de joindre Valentin Jamin. On parlera foot également. Dans 1h15, le coup d'envoi de Marseille-Paris-Saint-Germain. Les dernières infos compo, l'ambiance autour du Vélodrome. C'est dans un instant sur RMC. Puis on dira un mot de Formule 1 vers 19h45-50.
Eh oui.
Le Grand Prix des États-Unis ce soir.
Grand Prix d'Austin. Max Verstappen, Lewis Hamilton en première ligne. Et comme tu le sais mieux que tout le monde, Olivier, les deux s'adorent.
Ça va être fantastique. Je sais pas si t'as vu les essais.
Ouais, j'ai vu les essais.
Fantastique.
Ouais, on se croirait sur le périph' un jour d'affluence. On en parle dans un instant.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Et Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team, qui est là ce soir dans votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Oussem, dans une douzaine de minutes. Formule 1.
Et oui, la Formule 1, le Grand Prix d'Austin aux États-Unis. Verstappen, Hamilton en première ligne. Les deux sont à 6 points seulement au classement général l'un de l'autre. Ça va être chaud ce soir, dès 21h, le Grand Prix sur RMC.
Et ce sera en même temps que du foot. Il faudra regarder le début du foot, zapper.
Écoutez RMC, vous avez les deux en même temps.
Ça pour vous. Parce que à 20h45, dans 1h10, Marseille, Paris Saint-Germain, l'affiche, le choc pour conclure cette 11e journée de Ligue 1. Et on va tout de suite prendre la direction du sud de la France.
Monaco.
Non.
Nice.
Juste à côté. Ah. Marseille.
On va à Marseille.
Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial aux abords du stade Vélodrome. On a mis les tauliers à l'intérieur. Jeannot Rességué et Florent Germain qu'on retrouvera dans quelques minutes. Et puis le petit jeune dehors. Salut Nico.
C'est ça le journalisme.
Salut Thibaut, salut Oussem, salut à tous.
C'est comme ça que ça se passe dans les rédactions.
Ah ouais. Bon, raconte-nous à 1h10 du coup d'envoi l'ambiance. On imagine un jeune homme Vélodrome chaud bouillant ce soir.
Ah, pour vous dire, c'est un véritable volcan, c'est une ambiance totalement dingue devant le stade Vélodrome. Alors pour vous faire un petit panorama de ce que je suis en train de voir, on a le parvis qui donne sur le boulevard Michelet qui est rempli, et depuis 16h les supporters de l'OM donnent de la voix accompagnés par des bombes agricoles, des feux d'artifice pour se mettre dans l'ambiance. Un supporter du virage sud de l'OM me disait il y a quelques minutes. C'est complètement dingue. Ça fait 15 ans que je suis abonné. C'est une des plus belles ambiances que j'ai pu voir. Alors il faut un peu nuancer. C'est Flo Germain qui m'a dit ça tout à l'heure. Celle de 2015 lors du classique avec Marcelo Bielsa était déjà assez dingue. Sur les marches devant le stade, les supporters enchaînent. Les qui ne sautent pas n'est pas marseillais. Et je peux vous dire, j'étais en plein milieu tout à l'heure. Alors on sent carrément le sol trembler au moment du saut. Alors un peu plus d'une heure du coup d'envoi, la plupart des supporters sont en train d'entrer dans le stade. 65 000 spectateurs pour ce classique. Les supporters attendent maintenant une victoire à domicile. Ils l'attendent depuis 10 ans, mais je n'ose même pas imaginer l'ambiance à la sortie s'il y a une victoire au bout.
Nicolas Pelletier aux abords du stade Vélodrome. Tu fais attention à toi, Nicolas, s'il te plaît.
On a entendu des bruits. On s'inquiète un peu pour toi.
Tu fais attention, s'il te plaît.
Il y a pas mal de bombes.
Et t'essaies de revenir en bonne santé. On bascule de l'autre côté du mur qui est en face de toi, Nicolas. On rentre à l'intérieur du stade avec les tauliers dont parlait Thibaut, Jeannot Rességuier, Flo Germain. Salut les gars.
Bonsoir sur le perchoir. Bonsoir à tous.
Salut à tous.
Messieurs, on a pris des nouvelles de l'ambiance à l'extérieur. On entend l'ambiance à l'intérieur.
Oui, il y a du monde. C'est vrai que c'est souvent à ça, tu as raison de me poser la question, qu'on reconnaît un gros match, d'un match exceptionnel. Parce que ce soir, effectivement, les virages, alors, sont pas pleins à 100%, mais à 80%, et c'est le cas depuis une bonne heure. J'ai bien aimé une scène il y a une petite demi-heure. Le bus est arrivé, on a vu les joueurs très concentrés, évidemment. Et puis Rongier et Conrad De La Fuente étaient les deux seuls joueurs marseillais à venir dans le rond central un petit peu. Et on a pu lire sur les lèvres, il y a eu un petit clin d'œil de Rongier à Conrad. Il lui a dit: c'est beau, c'est chaud. Et c'est vrai que c'est particulièrement beau et particulièrement chaud. On voit qu'avec Jeannot qu'il y a des tifos qui se préparent. Ça va être, ça c'est sûr, une très très grosse ambiance.
Dans quelques instants, Jeannot, Flo, vous allez nous donner les dernières tendances compo, en attendant d'avoir les compos officiels d'ailleurs dans une dizaine de minutes. Mais Olivier, ce Marseille-Paris Saint-Germain, on a l'impression que cette année, il y a un truc en plus, il y a une espèce de ferveur qui est revenue. L'OM est troisième de Ligue 1 avant le début de cette 11e journée. Paris est leader bien sûr, mais l'OM joue, envoie du jeu. Il y a un truc en plus cette année. Non,
bah écoute, c'est des premières fois où on sent un OM capable de titiller les Parisiens, et surtout avec l'état d'esprit de vouloir battre les Parisiens. Souvent on les entendait dire oui, on va faire ce qu'on peut, on va essayer, on va gagner, mais tu sentais pas les moyens derrière. Mais cette année, franchement, cette équipe, Bielsa, il l'emmène bien.
Sampaoli.
Hein, Sampaoli, tu vois.
Il y a un air de Bielsa.
Il y a un air par rapport à 2015.
On entend les sifflets, Jeannot.
Oui, c'est qu'ils écoutent RMC et ils n'ont pas aimé qu'on dise Bielsa à la place de Sampaoli. Parce que André Sampaoli, il a été adopté ici. Donc, réaction immédiate, sanction immédiate. Sans cap contrat RMC à Marseille. Non, c'est que le staff du PSG, Jeannot, est en train d'entrer sur la pelouse.
Ouais, petit à petit, on va voir les gardiens arriver pour l'échauffement. Et on aura peut-être une réponse déjà par rapport à Donnarumma ou par rapport à Navas sur la compo d'équipe. Mais bon, c'est vrai que c'est un match avec un contexte particulier, au-delà du fait que Messi va découvrir le stade Vélodrome. Mais Messi, c'est l'Argentine. Messi, c'est Rosario. Mais l'Argentine, c'est surtout Sampaoli d'un côté, Pochettino de l'autre, la région de Santa Fe dont ils sont tous les deux originaires, le même lien avec Newell's, même si la carrière de Sampaoli a été beaucoup plus courte que celle de Pochettino. L'inspiration d'un homme, la langue à fourcher d'Olivier Giroud, mais Bielsa qui fait venir à Newell's un certain Pochettino, un jeune défenseur à l'époque, Sampaoli qui ne l'a jamais côtoyé, Bielsa, mais qui s'est toujours inspiré, qui l'a toujours observé, et le fait qu'il soit venu à Marseille lui a aussi donné envie de venir quand on l'a approché. Après, ce sont deux personnages complètement différents. S'il y en a un dont on sait, et je mets à peu près entre guillemets, où il veut aller dans son schéma tactique, dans sa façon de jouer, dans la volonté de voir ses joueurs aller vers l'avant et tous être solidaires pour le collectif, l'autre, Pochettino, c'est plus compliqué parce que depuis qu'il est arrivé, on a un peu de mal à lire vraiment son jeu. Est-ce que ce soir il mettra les quatre fantastiques? Est-ce qu'il va prendre un petit peu plus de risques et lâcher un petit peu son 4-3-3? On aura la réponse tout à l'heure. Mais ce sont deux hommes complètement différents et qui vont se retrouver ce soir sur le bord de la touche, sur la zone technique des entraîneurs, avec peut-être au milieu un Messi qui va apporter beaucoup à Pochettino et tenter de faire plein de mauvaises choses à Sampaoli, parce qu'on se rappelle quand même qu'en 2018, au-delà d'élimination en 8e de finale face à la France, ça s'était pas très bien passé entre les deux.
Jeannot, tu penses que le début de match des Marseillais va être un début de match avec énormément d'engagement?
Alors je le pense, Flo a plus l'habitude que ça, mais je pense qu'ils vont leur mettre une grosse pression d'entrée. Ils vont essayer de les prendre rapidement à la gorge, de leur montrer qu'ils sont chez eux, que ça fait 10 ans qu'ils attendent de battre cette équipe du Paris Saint-Germain version QSI, et que ce soir, et le comparatif n'a pas été fait que par moi ou par Florent Germain, par beaucoup d'observateurs, par beaucoup de médias. D'un côté, on a un collectif qui a parfois des limites, qui a parfois notamment des limites défensives, mais qui a au moins la volonté d'agir en collectif. En face, on a des individualités, de grosses individualités, et on l'a vu, Mbappé, Messi, pour sortir le PSG d'une défaite en Ligue des Champions face au RB Leipzig au Parc des Princes, mais un collectif qui se cherche encore. C'est peut-être là que va se faire la différence.
En fait, il y a deux mots d'ordre. Il y a la clé du match selon Sampaoli, c'est d'avoir le ballon un maximum pour éviter que Messi, Neymar, Mbappé et compagnie soient trop proches de la cage de Paulo Lopez. Mais ça, à la limite, ça arrange presque le PSG, qui est une équipe qui joue beaucoup en contre et qui fait très très mal en contre. Après, l'autre clé, et ça c'est vrai qu'on a pas mal de retours pour aller dans ton sens, Olivier, les joueurs marseillais, notamment ce milieu de terrain, Guendouzi, Rongier, Camara, ces trois-là, ils veulent vraiment bouger, pas intimider, mais voilà, venir chatouiller les Parisiens. Alors que tiens, il y a mon fiston qui parle à l'écran, donc je lui fais un bisou.
Comment ça il parle à l'écran?
Non, mais je m'y attendais pas du tout. Le petit bonhomme Pablo qui est en train d'être interviewé sur les écrans géants.
C'est excellent.
Avec ses copains du stade de foot. Ils vont chanter.
Ils jouent contre le Paris Saint-Germain. Ah non, il va chanter.
Non. Mais belle opération des clubs partenaires. Pour les clubs partenaires, là, ils sont en train de chanter qui saute le panier, pas marseillais. Et qui invite beaucoup de minots de ces clubs partenaires. Alors, quand ils ont reçu l'invite pour un OMPG, je peux vous dire qu'ils avaient tous excellent. Des étoiles plein les yeux.
Alors, il est 19h42. Vous êtes dans le RMC Sport Show dans 1h03. Le coup d'envoi de ce Marseille-Paris Saint-Germain sur RMC. Dans un instant, on va vous retrouver Jeannot et
Flo. Pour les compositions d'équipe.
Pour avoir les compos officielles qui devraient tomber aux alentours de 19h45. Oui, justement, on va attendre que ce soit officiel. Et à partir de 20h, dans l'after, on vous débrieferait, messieurs, autour de Gilbert Bribois, les compos concoctés par Sampaoli et Pochettino. D'ici là, Formule 1 à suivre.
Et oui, le Grand Prix d'Austin, le duel tant attendu entre Verstappen et Lewis Hamilton. Qui va sortir vainqueur de ce Grand Prix des États-Unis? On en parle d'ici quelques minutes.
Avec deux énormes événements à suivre sur RMC. On en parle tout de suite dans le RMC Sport Show.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Le dimanche de folie continue sur RMC. Ce 24 octobre est exceptionnel. Fabio Quartararo, premier français champion du monde en MotoGP. La journée qui est loin d'être terminée dans une heure. Marseille-Paris-Saint-Germain, ce sera parti sur RMC, 11e journée de Ligue 1. Et dans 1h et 13 minutes à 21h,
Grand Prix d'Austin.
On en parle dans un instant. Olivier Giraud est là, notre membre de la Dream Team, jusqu'à 20h ce soir.
Olivier qui se fait chambrer.
Le Marseille-PSG est déjà parti. Parce que j'ai eu un petit message de mon ami Jackson Richardson qui me dit: oula, on va vous ruiner ce soir. Il dit pas mal quand même le truc sur Bielsa. Et toi, nous, à l'époque, on avait une vanne quand un mec, tu voulais pas te faire vanner, tu disais: moi je connais pas les remplaçants. Bisous à Jackson.
Jackson Richardson, autre légende du
supporter de l'Olympique de Marseille.
Et donc le Marseillais face au Parisien, effectivement. Le match est lancé. Dès qu'on a les compos qui tombent d'ailleurs.
Dès que ça tombe, on va voir Jeannot Rességuier, Flo Germain en direct du stade Vélodrome.
On vous donnera l'info avant l'after qui arrive à 20h.
La deuxième période du RMC Sport Show.
La grande bagarre continue. Grand Prix des États-Unis à Austin, Texas. Max Verstappen va partir en pole position devant Lewis Hamilton. Les deux sont séparés de 6 points au championnat du monde. Jean-Luc Roy, notre membre de la Dream Team, est de retour. Jean-Luc, les deux ne se lâchent pas. Ils sont tous les deux sur la première ligne. On attend avec impatience le premier virage de ce Grand Prix d'Austin, Jean-Luc.
Ah ça, je peux te dire qu'on l'attend effectivement avec une certaine impatience, surtout quand on se rappelle qu'à plusieurs reprises, l'homme qui était placé en deuxième position, mais sur la première ligne, est parvenu à devancer celui qui avait la pole au moment du freinage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un véritable mur qui sépare la grille de départ du premier virage, qui est une épingle à gauche extrêmement serrée, et effectivement, celui qui est placé à l'intérieur, donc l'homme qui a signé le deuxième temps, en l'occurrence Lewis Hamilton, a une possibilité, s'il s'est bien élancé évidemment, de rester à l'intérieur et de couper la trajectoire à celui qui se trouve à l'extérieur. On l'a vu à plusieurs reprises, ça pourrait se produire.
Oui. Olivier, surtout le contexte psychologique de cette course-là, on a vu que les qualifs étaient un peu chaudes entre les deux pilotes, ça va sûrement jouer aussi sur le départ.
Ouais, on va en discuter avec Jean-Luc, mais franchement, ce défi aujourd'hui, il va être assez exceptionnel parce que Hamilton, je pensais qu'il allait lâcher moi. Parce que dans ce défi, je te rentre dedans, on se rentre dedans, il y a beaucoup de grands prix qu'ils n'ont pas fini. Je me suis dit, face à la fougue de Verstappen, Hamilton allait lâcher. Mais pendant ses essais, Hamilton a montré qu'il était là et qu'il serait là jusqu'au bout. Mais il y a un petit bémol, Jean-Luc, pour les deux, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accident parce qu'ils n'ont plus de moyens de changer de moteur, sinon il y aura pénalité pratiquement à chaque grand prix.
Précision, Jean-Luc.
Absolument, Olivier, tu as tout à fait raison. On est déjà entré, et malheureusement c'est souvent le cas en Formule 1, dans la deuxième moitié de la saison. Tu sais, par la limitation du nombre d'organes mécaniques, les deux pilotes ont déjà eu recours à ce système et à donc des pénalités. On a vu Verstappen même remonter comme une balle et terminer deuxième. On a vu Hamilton également partir de très loin et remonter sur le podium. Donc oui, on ne peut pas se permettre ça. C'était une petite séance d'intimidation, si tu me permets l'expression, Olivier. Et je sais que tu connais ça, c'est un peu pour la, c'est pour faire le buzz, hein. C'est parce que pour montrer à quel point on est courageux, il n'y avait pas de vrai risque, personne n'avait idée de percuter l'autre, mais on voulait pas lâcher le morceau. Bon, ça fait partie du jeu, tu sais, quand tu regardes ton adversaire, tu connais ça, hein, droit dans les yeux et que tu le bouscules un peu en passant, bah c'est pareil.
Voilà. Justement, on va réécouter un extrait qu'on a entendu là juste avant la petite pause. Écoutez bien, Jean-Luc, tu nous expliques ce que ça veut dire. Écoutons.
Stupid idiot.
C'était quoi ça, Jean-Luc? Qui dit ça? Destination de qui? C'était quoi ce stupide idiote que même
alors,
les moins anglophones ont compris?
Je vais traduire poliment, c'est un idiot stupide, ça veut dire ce connard, hein, je vous la fais en bref. Parce qu'effectivement, en fait, Verstappen était un petit peu en phase de ralentissement à la demande de son ingénieur. Hamilton arrivait derrière, je rappelle, on était en essai libre, hein, donc il n'y avait aucun enjeu. Et puis Hamilton a absolument voulu passer Verstappen, il en avait le droit. Verstappen a décidé qu'à ce moment-là, il allait accélérer. Donc les deux pilotes se sont trouvé en position de frictionnement juste dans le gauche qui précède la grande ligne droite des stands et la montée. Et dans la montée, bah, tout le monde a monté les rapports comme en course et on s'est retrouvé côte à côte au freinage. Et là, Hamilton à l'intérieur, c'est peut-être ce qui va se passer tout à l'heure, je le rappelais, pour le départ, n'a pas lâché. Et donc, c'est Verstappen qui a dû lâcher à l'extérieur, donc il était vexé comme un pou. Voilà l'histoire.
et donc, le départ, après,
il a accompagné.
Pour conclure.
Il a accompagné ses propos d'un geste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. La main comporte 5 doigts. Il en a effacé 4, si vous voyez ce que je veux dire.
Le geste du pouce pour lui dire bravo. Super, mec.
Super.
On a bien compris, le décor est planté. Merci Jean-Luc. On te retrouve à partir de 21h, un tout petit
absolument,
peu avant.
Absolument, ça va chauffer.
Au moment de ce Marseille-Paris Saint-Germain, c'est une actu énorme aujourd'hui. On sera sur tous les terrains, comme d'habitude, sur RMC pour ce Grand Prix d'Austin et la lutte qui continue.
Thibaut, en MotoGP, la victoire de Fabio Quartararo n'était pas le seul événement de la journée.
C'est le reportage.
RMC Sport.
Reportage.
On va retenter notre chance avec Valentin Jamin, notre envoyé spécial à Misano, pas loin du circuit Simoncelli, où Fabio Quartararo a été titré cet après-midi. Valentin, es-tu là?
Buonasera tutti, effectivement. Mais vous savez, je pense que c'est un piège des Italiens, ils sont jaloux, ils m'ont coupé la ligne juste avant.
Non, mais en plus, on s'inquiétait, on a entendu des clochers d'une église, tu ne répondais plus, on s'est dit, il s'est passé quelque chose.
On espérait que. Il y avait cet événement pour nous, les Français, on le disait, Fabio Quartararo, champion du monde, mais pour eux, là-bas, les Italiens, l'événement, c'était la dernière course de leur légende, Valentino Rossi, 7 fois champion du monde, qui s'arrête à la fin de la saison. Il reste 2 grands prix, mais c'était le dernier en Italie, Valentin.
Effectivement, et pour un petit peu mesurer l'aura de Valentino Rossi, eh bien il suffit de se rendre dans son petit village de Tavuglia, un village champêtre, 8000 habitants, et là des drapeaux jaunes partout, la couleur qui est associée à Rossi, des drapeaux aux fenêtres, même sur le clocher, des photos de Valentino Rossi, également un petit parc en son honneur et une grande banderole sur un mur principal, sur la rue principale, avec marqué Gracias Valé, merci Valé. Là on voit des fans venus de loin qui se prennent en photo devant. Didier par exemple est belge et il arrive de Charleroi.
1200 km, on a mis 14 heures. En forme d'hommage, ouais, on est venu célébrer un peu la tristesse qu'il arrête. Triste de voir partir, c'est un idole. Maintenant, il faut retrouver qu'un autre pilote, mais ça va être très dur de retrouver un idole comme Rossi, en fait. C'est une légende. Ouais, non, le MotoGP, ce ne sera plus jamais le même.
C'est même une sorte de pèlerinage, en fait, pour certains supporters de Rossi. Écoutez, par exemple, ce que dit Alberto, qui lui est venu de Venise.
In this area, he's like God, yes.
Où nous nous trouvons, il est comme Dieu. Rossi, c'est une passion, quelque chose que tu trouves tous les dimanches. Tu sais qu'il sera là. Il représente le sport mécanique ici, tout comme Ferrari. Même ceux qui ne s'y intéressent pas savent qu'il va arrêter. Il est comme le pape. C'est l'histoire.
Voilà, comme le pape, ici, il y a un fan club de Rossi, des boutiques de Rossi, beaucoup de stands, évidemment, pour vendre des casques, des figurines, des t-shirts à l'effigie du champion. La commune, messieurs, a même changé la limite de vitesse. C'est plus 50 km/h, mais c'est 46 km/h, 46. C'est le chiffre porté par Rossi sur la piste. Écoutez ce que dit Luis. Il habite, lui, Tuvilla aussi, et il en est très, très fier.
C'est une grande chance pour nous qui sommes ici, on ne s'en rend pas forcément compte, mais pour les personnes qui viennent d'ailleurs, ils s'en rendent compte vraiment combien Valentino est grand dans le monde. Pour la ville, il a amené beaucoup de monde, beaucoup de tourisme, même quand il ne court pas en Italie, mais dans d'autres pays du monde, ils viennent voir les courses ici, au bar des Rossi.
Mais cet après-midi, il y avait Grand Prix, c'était bien sur ses terres, à une quinzaine de kilomètres en fait, le circuit de Misano de son village. Rossi avait donc rendez-vous avec son public, dernier Grand Prix en Italie, vous l'avez dit, avant qu'il mette fin à sa carrière. Tout le monde en jaune, c'était impressionnant, 35 000 personnes avec des casquettes, le drapeau, ce numéro 46, et ceux qui ne sont pas équipés vraiment sont des intrus. Ici, Rossi a terminé 10e, une place honorable pour lui qui est en difficulté globalement depuis deux saisons, et forcément ça faisait quelque chose au Tifosi comme Ignacio de le voir partir.
Bien sûr que je suis triste, car c'était sa dernière ici, c'est la fin d'une ère, mais c'est mieux pour Valentino de finir comme cela, comme un grand champion, à 42 ans.
Alors, qui va prendre la suite maintenant, c'est la question. Eh bien, personne ne sera à sa hauteur pour beaucoup d'Italiens. C'est par exemple ce que pense Marco, qui a lui aussi une casquette numéro 46 sur la tête.
Quartararo et Marquez sont juste des pilotes. Rossi est une légende, c'est différent. Rossi, c'est la MotoGP, c'est vraiment un monde différent.
En tout cas, tous ces titres de champion du monde seront durs à égaler, très très durs. Et nous, petit coup, du côté français, on espère évidemment que notre Fabio Quartararo essaiera de s'y atteler.
Plus que 8. Merci. Valentin Jamin, reportage en direct de Misano.
Après, Valentino Rossi, c'est une grosse carrière, mais on dit la même chose d'Olivier Giroud en France.
Oui.
Alors on va changer.
Tu vas arrêter tes conneries. Écoute, Valentino Rossi n'est pas champion olympique.
Exactement. Voilà.
Merci Olivier, passe une bonne soirée.
À vous aussi.
Les compos sont tombés, c'est dans un instant, dans
l'after. Ça sera dans l'after autour de Gilbert Dubois. Exactement, les fantastiques sont là.
L'OM au complet, Navas dans les buts. L'analyse dans un instant dans l'After Foot. Passez une bonne soirée sur RMC. Ciao.